On va lire deux références pour introduire ce message. C'est des références qui nous montrent que le Seigneur est venu et il a apporté. Il est venu pour apporter la paix. Et la paix, c'est peut-être lié avec le bonheur, vous ne croyez pas ? Moi, j'y crois. Première lecture dans Éphésiens, chapitre 2, et au verset 17, un verset qui redit ce que je viens de paraphraser, mais on va le lire. Je vous le lis dans une version un peu plus actuelle. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. C'est vrai que ça fait un peu réfléchir de se dire, tiens, c'est marrant, ceux qui sont loin sont mis en premier. C'est un verset, je ne sais pas si vous le saviez, qui est issu de l'Ancien Testament. Et on trouve la même parole dans le livre d'Ésaïe. On va le lire, c'est au chapitre 57. Ésaïe 57 et au verset 19. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Ici, dans ce verset d'origine, on va dire, on a un peu plus de détails, un peu plus de contexte. Et on voit quand même, moi je trouve que c'est une grâce de voir que finalement, quelle que soit notre situation, que nous soyons loin de Dieu, que nous soyons un peu plus proches de Dieu, je dirais. On va le voir, il y en a à qui Jésus a dit « tu n'es pas loin ». Et quelle que soit notre distance finalement, quel que soit finalement ce qui nous sépare de Dieu, eh bien la bonne nouvelle, la paix, elle est pour tous. Et j'aimerais que cet après-midi on puisse être rassuré sur cette question. Dieu veut donner sa paix. Qui que tu sois, le Seigneur désire donner sa paix à ceux qui sont loin comme à ceux qui sont près. Et on va voir que l'ordre a de l'importance parce que dans l'histoire, on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, pourquoi ceux qui sont loin ont la paix d'abord ? Parce que ceux qui étaient près ne l'ont pas reçue. Alors, il est allé plus loin. Et ceux qui étaient plus loin, à savoir nous, il y a trouvé des personnes réceptives. Un premier texte dans l'évangile de Jean nous dit cette parole qu'on cite régulièrement. Jésus, la parole faite chair, est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. C'est écrit, Jean chapitre 1er, verset 11. C'est exactement cette parole. Il est venu chez les siens, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. À savoir que Jésus est venu en terre d'Israël, dans un village nommé Nazareth. Et on peut s'apercevoir à la lecture des évangiles qu'à Nazareth, quand Jésus a voulu s'y rendre, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi ? Parce que les siens ne l'avaient pas reçu. Il n'avait pas reçu le fait que Jésus se proclamait le Messie, loin de Dieu, celui qui était envoyé du Père pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et il ne voyait qu'en lui le fils du charpentier Joseph. Et ils l'ont refusé. Et leur incrédulité les a empêchés de croire en lui. Pourtant, il est venu. Il est venu chez les siens, dans sa nation même. Jésus va pleurer sur Jérusalem et va lui dire « Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Et pourtant, ce sont des choses qui sont restées cachées aux gens qui étaient autour de lui. Et Jésus termine, Ici, c'est sa lamentation, parce qu'il se lamente sur le fait que les gens qui étaient autour de lui ne croyaient pas, ils étaient dans une incrédulité totale, ils ne voulaient pas recevoir ses paroles, et pourtant ils ont vu des miracles. Tout ce que Jésus disait était approuvé par des miracles, par des signes, par des guérisons. Et pourtant, il n'y avait que des cœurs durs à l'horizon. La foule était nombreuse, mais personne ne croyait. Et Jésus va dire sur Jérusalem qu'elle n'avait pas connu le temps où elle avait été visitée. Jésus avait fait du chemin parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les témoignages qu'on a dans les évangiles de ceux que Jésus est allé voir à l'étranger sont positifs. Je ne dis pas qu'aucun juif n'a cru. Parce qu'on a l'exemple de Nicodème, on a l'exemple de quelques-uns, des siens quand même qui ont cru, les apôtres. Donc, mais si on compare le nombre, le ratio du nombre de personnes qui ont cru comparé au nombre de personnes qui ont entendu qui n'ont pas cru est très faible. À l'inverse, quand Jésus va à l'étranger par rapport à ce qui nous est rapporté, eh bien, on voit qu'il va dans un village de Samaritains et sans aucun faire un seul miracle. Tout un village se convertit. C'est pas pareil, l'impact est différent. Pourquoi ? Dieu seul le sait. Mais toujours est-il qu'à l'étranger, on voyait que finalement, c'était différent. J'aimerais qu'on lise un exemple ensemble. On l'a abordé il y a quelque temps, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. On a une histoire, l'histoire d'un démoniaque qui a été délivré par Jésus. On ne va pas relire son histoire parce que c'est pas trop sur l'histoire de sa conversion que j'aimerais m'arrêter cette fois. Mais c'est surtout le début. Marc au chapitre 5 et les deux premiers versets, on lit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au devant de lui. Cet homme vint au-devant de Jésus, c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit au verset 6 encore, il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui. Donc on voit qu'il y a quand même ici une rencontre qui est en train de se profiler entre un homme qui a besoin et qui sait qu'il a besoin d'une délivrance. Et là, je pèse mes mots, c'était un homme possédé, il avait besoin d'être vraiment délivré d'un esprit impur, d'esprit peut-être même au pluriel impur, qui était ainsi en lui, et quand il a vu Jésus, il a vu tout de suite la solution. Alors il a accouru, vous savez que même dans sa situation, même si par moment des personnes possédées perdent leurs moyens, il y a quand même la volonté de la personne. Et cette personne-là, elle a vu Jésus, et elle a accouru, et elle est jusqu'à ses pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus, juste à la fin de l'histoire, si on lit à la fin de l'histoire, il est venu avec cet homme, les gens lui demandent de repartir. Et Jésus va reprendre le bateau et il va repartir. Jésus était arrivé par bateau, il avait traversé tout le lac de Galilée. Autrement dit, on pourrait presque croire que Jésus avait fait tout ce voyage juste pour cette personne. Juste pour elle. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Certes, cette personne a accouru vers Jésus quand elle l'a vu, mais lequel des deux a fait le plus grand chemin ? D'autant plus que si on regarde juste avant, la manière dont le voyage par la mer s'est passé n'était pas des plus tranquilles. Le Seigneur a lui fait la plus grande distance. Et finalement, le chemin qui reste à parcourir pour la personne, pour que la rencontre soit possible, c'est négligeable comparé à tout le chemin que Jésus a fait. On le voit ici avec cet exemple de cet homme de Gadara. Si on va dans Matthieu 15, on va voir l'histoire. On peut le lire rapidement. Matthieu 15, d'une autre personne, une femme qui vivait en Syrie, la Syrie actuelle. Jésus, au verset 21, on va voir avec ses disciples, se retire dans cette contrée, du coup étrangère, au territoire d'Israël. Jésus partit de là, verset 21, et se retira dans le territoire de Tyr, de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : Seigneur, viens à mon secours. Par plusieurs fois, elle va persévérer et elle va finir pour aller jusque devant lui, se prosterner à ses pieds pour implorer la grâce de Dieu. Une personne qui était étrangère. Et peut-être que dans ton cœur, tu te dis, mais moi, la Bible, Dieu, tout ça, j'y connais rien, je suis un étranger. Eh bien, sache que la Bible dit que le problème n'est pas de connaître une religion, le problème n'est pas de connaître les dogmes de ce que dit la religion X ou Y. Il s'agit de croire en une personne qui s'appelle Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui peut intervenir dans ta vie. C'est celui-là même qui pourra, peut-être que tu te sens dans une situation brouillardeuse, tu ne sais pas où aller. Peut-être que dans ta vie, tu te sens accablé par les factures ou par tout tellement d'autres choses. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Peut-être que c'est la maladie qui est là sur ta vie. Peut-être que ce sont des addictions qui sont là sur ta vie. Et quelque part, quand tu regardes des personnes que tu connais dans ton entourage, que tu vois que cette personne semble être heureuse, et peut-être elle est. Peut-être c'est une enfant de Dieu, peut-être c'est une personne qui est convertie, une personne qui a connu, qui a fait la rencontre avec le Seigneur. Et toi, tu es là de ce regard extérieur et puis tu dis, mais moi je suis un étranger à côté d'elle. On a bien lu tous ensemble que le Seigneur est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Et ceux-là même sont notés en premier. Il n'est pas venu pour sauver des personnes justes, il est venu pour sauver des pécheurs. Et le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Et quel chemin a-t-il parcouru ? L'apôtre Paul écrit aux Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 8, que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était de condition divine, Jésus est Dieu. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Il a déjà parcouru un grand chemin, ne serait-ce que pour naître parmi nous, de la Vierge Marie. Pour, ça c'est, je dirais, le plus grand chemin, quelque part, qu'il a parcouru, mais peut-être pas le plus difficile. Peut-être pas le plus difficile. Peut-être la distance à nous qui sommes, peut-être comme des poussières dans l'univers, cette distance-là nous semble astronomique. Et pourtant, est-ce que c'est la plus difficile ? Je ne suis pas certain. Quand on regarde dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 22, on va voir que ça se complique. Le chemin n'était pas tout à fait terminé pour le Seigneur, pour que la rencontre soit possible. Le chemin n'était pas tout à fait terminé. Le Seigneur se retrouve dans un jardin, il est pris à des angoisses terribles. Verset 39, « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Seigneur réfléchissait à ce qu'il allait traverser et il était tellement angoissé, l'angoisse était tellement sur lui, oppressante, qu'il en transpirait du sang. Et c'est Luc, le médecin, qui nous le dit. Et ce n'est pas un simple détail, parce que quand on arrive à transpirer du sang, ça veut dire que le cœur est sur le point de lâcher. Ce que le Seigneur Jésus est en train de demander, c'est « Seigneur, Père, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, tu vois mon cœur qui est sur le point de lâcher. Je ne pourrai pas aller jusqu'au bout si tu ne viens pas me fortifier. » Et là, l'ange apparaît, le fortifie. Pourquoi faire ? Pour pouvoir terminer le chemin est arrivé jusqu'au point de rencontre, jusqu'au carrefour, ce carrefour qui est en forme de croix, celui-là même où il nous attend. Il a fait tout le chemin pour aboutir et il voulait absolument arriver à destination. Il était angoissé parce qu'il savait que pour arriver au bout, les derniers mètres étaient les plus durs. Vous savez, quand on fait une course d'endurance, c'est souvent quand on voit la ligne d'arrivée qu'on commence à trouver dur. Pour certains, dans le cyclisme, ce sera peut-être les 10 derniers kilomètres. Pour le marathon, ce sera peut-être le dernier kilomètre. Mais c'est toujours les dernières distances les plus dures. Et en ce qui concerne le Seigneur, à quel point on voit ces choses-là prendre une vraie réalité, la fin du chemin pour le Seigneur devenait difficile. Il savait qu'il allait devoir souffrir. Et quelle souffrance a-t-il subi pour arriver à ce carrefour qu'est la croix, cet endroit même où il nous attend. Il est venu, le Seigneur, et il a accompli le plus long chemin. Il a annoncé pour lui une bonne nouvelle. Alors qu'il était sur la terre, qu'il était sur le chemin, il annonçait tout ce qu'il pouvait faire. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que disait Jésus. Jésus disait aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus sur la croix, alors qu'il est arrivé au bout, il est sur la croix et il dit justement ce qui nous permet d'entrer, de continuer la route avec lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une fois, juste avant de mourir, il va aussi dire, tout est accompli. Lui, en ce qui lui concernait, il était arrivé au bout. Seulement, pour que la rencontre soit possible, comme on l'a vu dans ces deux courts exemples, il reste un petit bout de chemin à parcourir. Mais le Seigneur, lui, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Et il nous attend. Il nous attend. Alors comment ? Comment arriver à ce carrefour ? Comment arriver à ce point de rencontre ? Il nous faut simplement croire en ce qu'il a fait. Oui, le Seigneur est venu. Lui qui est Dieu, sans péché, toute sa vie durant, il a vécu parmi les hommes, rejeté, méprisé, sans commettre de péché. Il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour que nous puissions nous approcher de lui, nous approcher de Dieu. Il est le médiateur, celui qui permet à l'homme d'être réconcilié avec Dieu, celui qui permet à l'homme d'être ainsi, de pouvoir espérer s'approcher de Dieu. Et peut-être que dans ta vie, tu es, comme je le disais tout à l'heure, dans des souffrances, dans des questions, peut-être un carrefour, tu ne sais pas comment te diriger. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a fait cette grande distance pour venir jusqu'à toi et que tu puisses retrouver un sens à ta vie. Déjà même sur la terre, le Seigneur Jésus annonçait, alors qu'il était sur la terre, ces choses. Il annonçait la paix, il annonçait le bonheur, il annonçait le repos, il annonçait les guérisons, et le Saint-Esprit approuvait ses paroles. Il approuvait ses paroles par des guérisons, par des miracles, par des gens qui ont connu le repos aussi, ses disciples. Et ce sont des choses que des personnes sur la terre déjà ont pu expérimenter. Mais il y a encore plus que ce que Dieu peut nous donner sur cette terre, cette espérance glorieuse qui est de pouvoir un jour faire le chemin que lui a fait vers nous, nous, on ira aussi, on fera ce même chemin, mais dans l'autre sens, sachant que nous, on sera déjà réconciliés avec Dieu. Il nous faut arriver à ce point de rencontre. Si je vais à ce point de rencontre qu'est la croix, ce carrefour, alors je vais pouvoir espérer rentrer avec lui, retourner avec lui, parce que c'est lui-même qui dit qu'il nous accompagne. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a fait tout le chemin du ciel jusqu'à nous. Et il veut nous ramener avec lui. Et c'est là toute l'espérance qu'a le chrétien, parce que le chrétien qui est allé à ce point de carrefour qu'est la croix, celui qui, devant Dieu, a compris qu'il avait besoin de Dieu et qu'il ne pourrait pas espérer aller au ciel sans que le Seigneur ne l'accompagne, parce que c'est lui qui ouvre le chemin, eh bien, il ne pourra pas accéder au ciel. Parce qu'il nous faut être avec Jésus, c'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous accompagne. Et pour arriver ainsi à être accompagné du Maître, il faut aller à la croix, à ce point de rendez-vous. Est-ce que tu réalises peut-être que tu n'es jamais allé à la croix ? Peut-être que tu espérais un jour aller au ciel en comptant sur tes bonnes œuvres, en comptant sur tes bonnes actions, en te disant, mais moi, après tout, j'ai rien volé, j'ai jamais rien, je ne mens pas, j'ai une vie qui est quand même réglée. Oui, mais si le Seigneur Jésus ne t'accompagne pas, si tu n'as pas été lavé dans le sang du Seigneur à la croix, si tu ne t'es pas rendu au point de rendez-vous, comment pourras-tu être escorté ? C'est pas possible. Il faut aller au point de rendez-vous. Il faut aller à la croix. C'est l'endroit même où vous allez pouvoir rencontrer le Seigneur. Il y est plus, c'est vrai, à la croix. Mais la croix est tout le symbole. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Mais celui qui réalise ce qu'a fait le Seigneur à la croix le rencontre vraiment. Parce que la croix est toujours un point de carrefour, est toujours le point de rendez-vous. Ou alors la rencontre avec Dieu est possible. Ou peut-être que dans ton cœur, tu ne sais pas trop, et c'est à la croix que tu vas pouvoir réaliser, que Dieu te fera réaliser comment il te voit. Il te fera réaliser à quel point tu ne pourras pas aller au ciel si le Seigneur Jésus lui-même ne t'accompagne pas. Si tu n'as pas réglé le problème du péché. Comment il se règle ? En venant tout simplement, en réalisant dans son cœur à quel point on a besoin de la grâce de Dieu. On ne mérite rien. Le Seigneur a fait tout le chemin. Il est allé jusqu'à mourir à la croix. Et c'est suffisant. Il suffit simplement d'aller à sa rencontre. On pourrait lire juste quelques versets de la parabole du fils prodigue. C'est intéressant quand même. Au chapitre 15 et au verset 20. On a ce jeune homme qui rentre en lui-même et qui commence à réfléchir sur ses œuvres, sur ses actions, sur son état plutôt, je dirais même. Parce qu'en fait, l'aboutissement de sa réflexion, c'est de se dire « je suis perdu ». Et c'est ce qui provoque en lui ce désir de vouloir revenir vers son Père. Mais regardez encore tout l'amour de Dieu. Verset 20, « il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Voilà comment on peut aller à la croix. On réalise qu'on a besoin de Dieu. Mais là encore, vous avez remarqué ce qui est écrit, que le père le voyait de loin et il a couru jusqu'à lui. Là encore, on s'aperçoit que finalement, dès que le père, dans cette parabole, voit son fils, qui fait le plus grand trajet ? Entre quelqu'un qui revient un peu tout penaud comme ça, à une certaine vitesse, quelle était la vitesse de son pas ? J'en sais rien, est-ce que c'était un pas décidé ou est-ce que c'était un pas un peu tristouné ? Il savait qu'il allait devoir passer, entre guillemets, un seul quart d'heure. Parce qu'il avait à cœur de revenir. Et il s'était dit, mais tant pis, si je dois passer un sale quart d'heure, je le passerai. Il était résolu dans son cœur à régler le problème. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Quelle que soit l'allure de ce fils, on voit le père qui court. Qui fait, au niveau du point de rencontre, lequel des deux a fait le plus de distance ? mais c'est le Père. Le Fils, c'est vrai qu'il est revenu de loin aussi. Mais à un moment donné, on voit que même le Père, quand il commence à discerner dans notre cœur quelque chose, un lumignon qui fume, un espoir, eh bien, il est prêt à tout faire pour que ce lumignon puisse s'enflammer de nouveau. Peut-être que dans ton cœur, tu réalises que tu as besoin de la grâce de Dieu, mais le Seigneur lui-même, parce qu'il est vivant, il intercède auprès du Père. Et le Père te voit dans ton cœur, alors peut-être que tu réalises que tu as besoin de revenir à ce point de rendez-vous, que tu as besoin à nouveau de refaire le point avec Dieu sur ta vie, de lui demander pardon pour tes péchés. Le Seigneur est prêt à courir vers toi pour te faire du bien. T'embrasser aussi, comme on le voit dans cette parabole. Il se jeta à son cou et l'embrassa. Quelle joie ! C'est pas écrit dans la Bible qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est écrit. Et le Seigneur, quand il voit quelqu'un qui décide dans son cœur de revenir à ce carrefour, alors il va y trouver le Seigneur Jésus lui-même avec la joie qui est la sienne, de nous voir arriver. Et quelle joie il aura lui aussi de pouvoir nous ramener au Père, de pouvoir nous ramener et nous escorter sur ce chemin. Le point de rendez-vous, c'est obligatoire. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Il y a une situation où Jésus a été confronté avec un scribe qui lui posait des questions doctrinales. Et cet homme avait bien répondu. Et Jésus, voyant son attitude, lui a dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Jésus disait aussi lui-même que le royaume de Dieu, c'était lui. Il était la personnification du royaume de Dieu. Le Seigneur, lui, il a tellement fait de parcours. Il est venu du ciel sur la terre, il a vécu sur la terre, il est allé jusqu'à la croix, il est allé jusqu'au carrefour. Et nous, il nous reste juste une chose. À prendre position, à réaliser que nous avons besoin de la grâce de Dieu, à nous approcher de lui. Est-ce qu'à la fin de cette réunion, tu vas ressortir et le Seigneur dirait de toi, tu n'es pas loin ? Ou est-ce que, alors que tu réfléchis, tu vas aller jusqu'à rentrer ? C'est pas le tout d'être à la porte. Celui qui sera à la porte du royaume de Dieu, quand le Seigneur reviendra, ce sera terrible pour lui, parce que justement, il sera à la porte. Il vaudrait presque mieux être loin. Le Seigneur désire que tu puisses vraiment réfléchir sur toi-même, sur tes voies, et il t'appelle. Combien j'aimerais que, en ce qui te concerne, toi qui écoutes aussi peut-être ce message, que le Seigneur ne dise pas de toi, tu n'es pas loin. Je suis présent aux réunions, mais dans mon cœur, il n'y a rien qui bouge. Et là, je ne suis pas loin, mais je n'y suis pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est Dieu aussi qui dit, « Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Imaginons juste le fait, quelqu'un qui vienne de loin pour vous voir et il a traversé tout le pays pour venir vous voir et il vous donne un rendez-vous. Vous avez juste peut-être un kilomètre ou deux à faire pour vous rendre à l'heure de rendez-vous et vous ne venez pas. Est-ce qu'on imagine quelque part la tristesse de la personne qui a fait tout le trajet ? Le Seigneur Jésus, il a fait un trajet tellement grand, tellement long. Et nous, si on reste à refuser la grâce de Dieu, si on reste à refuser de nous rendre à ce point de rendez-vous, quelle tristesse on va donner à Dieu. Cette tristesse sera de la colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Vous n'avez pas voulu vous rendre au point de rendez-vous. Eh bien, ce point de rendez-vous-là, est-ce qu'il se représentera à nouveau ? Je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, nous te rendons grâce pour ta parole, parce qu'elle nous avertit. Oui, ta paix, tu veux nous la donner. À ceux qui sont loin, à ceux qui sont près, à ceux qui sont pas loin de ton royaume, tu veux encore la leur donner, Seigneur. Et peut-être si quelqu'un a résisté, ta main est encore tendue et c'est encore une grâce de ta part. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour nous tous qui sommes là rassemblés cet après-midi. Je te demande ta grâce, Seigneur, pour que personne, Seigneur, ici ne puisse repartir de ce lieu en ayant cette réflexion, Seigneur, intérieure. Le Saint-Esprit, Seigneur, qui parle au cœur et qui nous invite, qui nous pousse à nous rendre à ce point de rendez-vous. Seigneur, c'est toi qui as fait le plus grand trajet. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que nous puissions croire vraiment en toi, que nous puissions recevoir dans notre cœur ce que tu as fait, mais non seulement recevoir, mais mettre en pratique ce que nous avons entendu. Crier à toi. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que dans les cœurs, Seigneur, des décisions soient prises comme ce fils prodigue qui a décidé dans son cœur. Seigneur, tu es capable, tu es tout puissant. Tu es encore capable de changer des vies, tu es encore capable de donner la paix là où il y a le tourment, tu es encore capable de guérir s'il le faut, tu es encore capable de délivrer d'une addiction quelle qu'elle soit, Seigneur, tu es capable, tu es tout puissant. Et je te prie, Seigneur, pour que vraiment on puisse saisir par la foi la paix, la grâce que tu veux nous donner cet après-midi. Je te dis merci de tout mon cœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ta parole. Merci pour toutes choses. Gloire à ton nom, Père. Amen.